Il est 19h sur Europe 1. Et à la une du journal, c'était prévisible, en pleine contestation sociale, la visite en France de Charles III est reportée.
Oui, en raison d'une nouvelle mobilisation prévue mardi, il était pratiquement impossible d'assurer la sécurité du déplacement à Paris, Versailles ou Bordeaux. Détail dans ce journal. Nous verrons aussi ce qu'en pensent les Anglais. Autre crainte sécuritaire, la manifestation interdite contre les méga bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Plus de 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour lutter contre les débordements violents. Dans ce journal, retour dans le quartier parisien de l'Opéra, touché par les incendies et les dégradations hier. La main tendue d'Emmanuel Macron au syndicat, mais pas sur la réforme des retraites. Et puis football, France-Pays-Bas en qualification de l'Euro 2024. Rencontre à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Le nord et le nord-est, un ciel qui est variable ailleurs en attendant l'arrivée d'une nouvelle dégradation en soirée, dégradation pluvieuse par la Bretagne.
Météo complète en fin de journal. Charles et Camilla à Paris, eh bien ça sera pour une autre fois.
Et oui, la visite d'État du souverain britannique devait commencer dimanche soir et se prolonger jusqu'à mercredi. Finalement, elle est reportée à la demande d'Emmanuel Macron.
À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations.
Emmanuel Macron à Bruxelles pour le sommet européen. Cette visite de Charles III devenait un vrai casse-tête sécuritaire, Jacques Sorey.
Oui, de la descente des Champs-Élysées au dîner au château de Versailles, en passant par l'aller-retour en train entre Paris et Bordeaux. Ces étapes inquiétaient particulièrement les services de sécurité. Plusieurs remontées des renseignements indiquaient la volonté d'individus de l'extrême gauche de troubler la visite royale. Et au-delà de la question de la sécurité de Charles III et de la reine consort, qui a bien sûr été prise en compte, il a également été jugé que maintenir cette venue était dangereux en termes d'image pour la France en cas d'incident à cette occasion. Emmanuel Macron s'est donc entretenu par téléphone ce matin avec le roi. Cette décision a été prise ensemble, insiste-t-on, du côté de l'Élysée. Les deux hommes ont convenu de reporter la visite. Aucune date n'est fixée, mais ce devrait être au début de l'été, indique la présidence. À défaut de la France, Charles III ira donc pour son premier déplacement à l'étranger en Allemagne, mercredi, car sa visite à Berlin est-elle maintenue ? Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, peu cache la déception d'en arriver là. Un sentiment de gâchis, résume un conseiller.
Jacques Sorey, vous le disiez, donc Charles III pourrait venir à Paris au début de l'été. En tout cas, avec Camilla, ils se réjouissent de venir en France dès que des dates pourront être trouvées. Alors de l'autre côté de la Manche, que dit-on du report de cette visite? Vous avez posé la question dans les rues de Londres, Sarah Menaille. Sarah?
Oui, bonsoir. On a posé effectivement la question aux Londoniens et vous allez voir que les réactions sont mitigées. Il y a d'abord un certain soulagement de voir Charles III ne pas venir en France dans ce contexte. Il faut rappeler qu'au Royaume-Uni, les images des poubelles qui s'accumulent, notamment dans Paris, les images des manifestations et des départs de feu un peu partout en France ces derniers jours, tournent un peu en boucle dans les médias britanniques. À la télévision anglaise, aujourd'hui, on décrit même une France qui brûle. Alors à Londres, certains saluent aujourd'hui cette décision de reporter la visite de Charles III. Pour d'autres, en revanche, c'est un rendez-vous manqué qui reste regrettable.
C'est dommage, cette visite aurait été une excellente chose pour renforcer les relations entre le Royaume-Uni et la France.
Je pense qu'il est préférable que Charles y aille dans quelques mois et qu'il découvre le pays dans une situation plus calme.
Je ne pense pas qu'il serait très approprié ou même de bon goût de voir un roi et une reine à un banquet à Versailles alors que le reste de la France brûle.
Et puis dans les médias britanniques, aujourd'hui, on estime aussi que ce report est un coup dur politique pour Emmanuel Macron. Pour certains, le chef de l'État français n'a pas réussi à restaurer l'ordre et le calme dans son pays à l'aube d'une visite royale. Et l'on voit ça un peu comme une humiliation pour le président de la République.
Sarah Menaille en direct de Londres pour Europe 1.
Cette question de la sécurité du roi en France, problème pour l'instant résolu. Les inquiétudes des autorités concernent désormais la manifestation contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres.
Oui, il s'agit de ces retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole. 5 à 10 000 personnes attendues pour cette manifestation interdite sur le site de Sainte-Soline, dont un millier d'activistes violents. D'importants effectifs policiers sont mobilisés durant tout le week-end pour faire face aux débordements. Charles Guyard, vous êtes dans les environs de Sainte-Soline. Les premiers manifestants sont sur place, d'autres sont en train de les rejoindre.
Oui, je suis actuellement à quelques kilomètres de la frontière entre la Vienne et les Deux-Sèvres, département qu'un convoi d'une quarantaine de tracteurs tente de rejoindre malgré une interdiction préfectorale. Alors pour déjouer les forces de l'ordre, ces tracteurs ont d'ailleurs coupé à travers champs mais restent survolés par un hélicoptère de la gendarmerie. Tout est donc mis en œuvre pour rallier Sainte-Soline où 5 à 10 000 antibassines sont attendues ce week-end malgré l'avertissement de la préfète du département, Emmanuel Dubé.
Nous nous attendons à des violences importantes. Dans ce contexte, j'ai interdit cette manifestation. Nous estimons que le nombre d'activistes violents sont de l'ordre d'un millier, ce qui est plus important probablement que le rassemblement qui avait lieu fin octobre.
La manifestation de cet automne avait en effet été particulièrement violente avec des blessés des deux côtés, une soixantaine de gendarmes et une cinquantaine de militants. Cette fois, les autorités ont mobilisé d'importants moyens. 3200 militaires et fonctionnaires de police sont présents sur place depuis plusieurs jours. Ils ont d'ailleurs déjà procédé à plusieurs dizaines de saisies de mortiers, de haches, de serpes ou encore de lance-pierres.
Charles Guyard dans les environs de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
Il est 19h06 sur Europe 1. Dans un instant, retour dans le quartier de l'Opéra à Paris, où s'est terminée la manifestation parisienne hier. Incendie, dégradation ont choqué les commerçants. A tout de suite.
Europe 1 soir week-end. Pierre de Villeneuve.
19h07, la suite du journal d'Hélène Zélani sur Europe 1 avant une nouvelle mobilisation mardi. Des craintes sur la radicalisation du mouvement.
Oui, notamment à Paris où plus de 900 feux ont été allumés hier. 1500 casseurs ont pris part au cortège avec d'importantes dégradations aux abords de la place de l'Opéra. Contrairement à Bastille ou République, les commerçants de ce quartier ne voient pas souvent passer les manifestations. Ils craignent donc que la violence ne s'installe. Reportage de Simon Bourtembourg.
Façade noircie par les flammes, poubelles calcinées et vitrines taguées. La place de l'Opéra porte encore les stigmates des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le 9e arrondissement parisien, théâtre de violence, un quartier des commerçants moins habitués aux dégradations des casseurs. Nathalie est gérante d'un kiosque depuis 10 ans.
Tout a brûlé, il y a plein de marchandises qui ont fondu. C'est la première fois. Parce que d'habitude, les manifs ne se terminent jamais ici, donc on est un peu épargné, mais cette fois-ci... Et après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, s'ils vont remettre un nouveau kiosque et qu'ils vont nous refaire la même chose. Enfin, c'est compliqué.
En face, la bijouterie de Stéphane a été vandalisée. Les vitrines sont fracturées. Plusieurs montres de luxe ont été dérobées. Le cinquantenaire avoue avoir été pris de court.
Ça a déjà été un lieu de rassemblement au moment des gilets jaunes. Maintenant, on croise les doigts. Évidemment, je souhaiterais que ça ne soit pas le cas pour la suite.
Une crainte est partagée par tous. Celle de voir le quartier de l'Opéra devenir un lieu fort de la contestation à Paris.
Une contestation donc 10e journée de mobilisation. Ce sera mardi.
Et maintenant, comment sortir de la crise. À Bruxelles, le chef de l'État a semblé vouloir tendre la main aux syndicats.
Oui, que les choses soient claires, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de remettre en cause la réforme des retraites. En revanche, il propose de rencontrer l'intersyndicale pour parler d'autres aspects du travail.
Le pays ne peut pas être à l'arrêt. Nous avons des tas de défis. J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions... L'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale, si elle souhaite venir me rencontrer, pour avancer sur tous ces sujets.
Perplexité de François Omeril, il est président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Il ne nous a pas reçus au moment où il fallait le faire, où on lui avait tendu cette perche. Il a traité tout ça avec mépris et dédain. Là, effectivement, je pense qu'il est un peu bousculé. La manifestation d'hier était particulièrement impressionnante. Donc, je crois que quand même, il y en a dans son entourage qui commencent un peu à paniquer et qui lui disent « bon, il faudrait essayer de reprendre la main ».
Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas prêt à entendre pour la énième fois ces explications de professeurs dès l'instant qu'on a fait la démonstration que la raison et la vérité étaient de notre côté. Tous les experts... qui se sont exprimés sur le sujet, ont démonté cette réforme. Elle n'existe plus sur le plan pratique. Ce n'est plus qu'un objet politique imposé avec force, avec violence, une violence institutionnelle par Emmanuel Macron et son gouvernement à l'ensemble de la population. Et donc moi, je ne suis pas prêt à réentendre la leçon du professeur Macron. Ça, c'est hors de question.
François Omeril, joint par Barthélémy Philippe.
Ouais, et en cette veille de week-end, si vous êtes automobiliste, vous vous inquiétez peut-être d'une pénurie de carburant.
Eh bien, à l'heure actuelle, seuls 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant. C'est une moyenne. La situation est plus tendue en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et c'est pour cette raison, Baptiste Morin, que les dernières réquisitions ont été opérées à la raffinerie de Donges.
Oui, le site était en grève depuis 2 semaines et demie. 3 salariés ont été réquisitionnés en début d'après-midi. Ils ont relancé l'envoi de carburant
carburant par Oléoduc vers un dépôt situé près de Rennes. Cette réquisition doit permettre de détendre la situation dans l'ouest du pays. Tôt ce matin, ce sont 4 salariés de la raffinerie Total Énergie de Gonfreville-Lorcher en Normandie qui ont été réquisitionnés eux aussi. Ils ont relancé les expéditions de kérosène vers les aéroports d'Orly et de Roissy. Hier, la Direction générale de l'aviation civile avait alerté sur le niveau des stocks de carburant dans les aéroports parisiens. Mais la situation pourrait à nouveau se compliquer en Île-de-France. La raffinerie Esso ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon, l'autre grande raffinerie de Normandie, va devoir arrêter sa production demain. Le site ne reçoit plus de pétrole brut à raffiner. Or, si relancer les expéditions se fait rapidement, redémarrer une raffinerie, eh bien, cela prend une dizaine de jours.
Baptiste Morin. Pour ce week-end, la SNCF prévoit une amélioration du trafic sur les grandes lignes, les TER et la banlieue parisienne, avec notamment 3 TGV sur 4. Dans l'aérien, 30% des vols sont encore annulés aujourd'hui à Orly, 20% à Marseille, Bordeaux ou Lyon. Des perturbations qui devraient se prolonger ce week-end et jusqu'à mercredi.
On va parler foot maintenant. Ce soir, c'est le premier match de l'année pour les Bleus, plus de 3 mois après la finale du Mondial perdue au Qatar.
Oui, France-Pays-Bas, match qualificatif pour l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne. C'est le début d'une nouvelle ère pour les Bleus. Changement de capitaine, de gardien de but. Cyril de la Morinerie, vous êtes au Stade de France. Des Bleus qui vont affronter un adversaire coriace.
Oui, les Bleus reçoivent d'entrée l'adversaire effectivement le plus difficile hein, dans ce groupe composé également de la Grèce, de Gibraltar, de l'Irlande. L'Irlande que les Français affronteront lundi prochain à Dublin. Et c'est d'ailleurs la première fois depuis plus de 30 ans que l'équipe de France joue face à un adversaire du top 10 mondial juste après une grande compétition. Alors les Oranges, c'est la 6e nation au classement FIFA. Cette équipe batave qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde battue au tir au but par l'Argentine. Nation finaliste du mondial en 2010 qui produit depuis tout toujours de grands talents, orphelin bien sûr de la légende Johan Cruyff qui nous a quittés, mais redoutable avec notamment le défenseur de Liverpool Van Dijk ou encore l'ancien Lyonnais Depay. Les Bleus sont prévenus, ils n'auront plus comme guide Hugo Lloris, le recordman de sélection d'équipe de France et capitaine emblématique a pris sa retraite internationale. Le gardien sera honoré tout à l'heure, tout comme Steve Mandanda, Blaise Matuidi et Raphaël Varane. C'est Kylian Mbappé qui hérite du brassard avec Mike Maignan dans les buts, probablement une défense composée de solides gaillards avec Upamecano et Konaté. En attaque, Colombo Moigny devrait être préféré à Olivier Giroud. Et puis, deux bonnes nouvelles pour terminer. D'abord, la pluie qui tombe sans discontinuer. C'est très important, cette période de sécheresse. Et puis, bien sûr, le public qui sera nombreux, tribunes de place pleines à craquer et match qui se jouera à guichet fermé.
Cyril, c'est vous qui avez commandé la musique là pour nous faire vivre comme ça, de façon intense, ce match qui approche.
Je vous ai pas entendu, Pierre, il y a tellement de bruit dans le stade.
Mais c'est ça le problème, c'est que je posais la question, c'est pas grave.
C'est ce qu'on était en train de vous dire, Cyril de la Morinerie, en musique au Stade
Exactement.
De France. On va vous retrouver avec Jean-François Pérez ce soir pour France Pays-Bas dans Europe 1 Sport. Rendez-vous dès 20h et coup d'envoi à 20h45. Sans musique, place au marché financier. Et nous sommes avec Didier Hamot de boursier.com. Didier, Paris en forte baisse.
Oui, le CAC 40 retombe ce soir sur les 7000 points. Il préserve hein, quand même cette barre des 7000. 7015 points, le CAC est en baisse d'1,7%. Le secteur bancaire reste sous pression, avec cette fois la Deutsche Bank en Allemagne qui est sous le feu de la spéculation. Le titre perd 8% ce soir, ce qui montre bien que la sérénité n'est pas encore revenue dans le secteur financier. BNP perd 5% ce soir, Crédit Agricole moins 2%, la Société Générale moins 6%. Le CAC 40 a quand même gagné 1% sur la semaine, et est en hausse de 10% depuis le début de l'année, il faut quand même le rappeler. Sur les autres places financières, ça baisse. À Londres, moins 1,2%, Bruxelles, moins 0,8%, Francfort, moins 1,6% avec la Deutsche Bank. Le CAC 40 en baisse d'1,7%, 7015 points.
Merci Didier Hamot.
Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé ?
Et merci à vous, Hélène Zeleny, pour le journal de 19h. On termine par le ciel. À quoi va ressembler le week-end, Valérie Darmon ?
C'est pas terrible. Hein. C'est maussade, avec demain matin des averses qui circulent sur un grand quart nord-est et de la Normandie et des frontières du Nord jusqu'au Limousin, jusqu'en Auvergne, jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Le vent qui souffle toujours assez fort, autour de 50 km/h, jusqu'à 80 en rafale sur le nord. Et dans l'après-midi, le temps qui est à l'accalmie, avec quelques averses du nord de la Seine au Grand Est, mais entrecoupé d'éclaircies cette fois, et le vent qui reste soutenu sur l'extrême nord. Sur la façade atlantique, sur la Bretagne et Pays de la Loire, jusqu'au nord de l'Aquitaine, en toute fin de journée, il va pleuvoir. Pluie et vent qui se renforcent en soirée par la pointe bretonne. Dans le sud, le ciel qui est voilé. Le vent d'ouest qui souffle assez fort, entre 70 et 90 km/h sur le Var et l'intérieur des Alpes-Maritimes.
Merci Valérie Darmon. À 19h30, les grands témoins de l'actualité. Quel sort pour le texte sur les retraites? Quelle réponse à la contestation? Quelle façon aussi de diriger ce pays pour ce quinquennat? Question posée dans notre long entretien à Olivier Dussopt, ministre du Travail. Et dans un instant, la 5e République est-elle morte ou en tout cas à bout de souffle? On en parle avec le politologue Dorian Dreuil. À tout de suite.